Les routes de Calédonie ont fait une nouvelle victime. Un jeune d'une vingtaine d'années a perdu la vie hier sur la VDE à Normandie. Depuis le début de l'année, 28 personnes sont mortes sur nos routes. Les Républicains calédoniens réunissaient hier matin leur conseil politique à Païta. Objectif, faire passer un message très clair d'unité des partisans de la France. La Foire du Pacifique, dernière journée pour ce rendez-vous qui se déroule depuis vendredi, Belle-la-Moselle. Les visiteurs ont été très nombreux depuis l'ouverture des portes. Le 94e pèlerinage de Tomo se déroule aujourd'hui. Les pèlerins sont attendus tout au long de la journée à Boulou-Paris. La grand-messe sera célébrée à 15h par l'archevêque de Nouméa. Va-t-on vers la paix à Gaza? Le Hamas serait prêt à libérer les otages israéliens, mais le mouvement terroriste dit encore vouloir discuter de plusieurs détails. Les négociations pourraient reprendre. Le choc à Nice, où une fusillade a fait 2 morts et plusieurs blessés dans le quartier sensible des Moulins, le procureur de la République de Nice a confirmé que cette fusillade avait un lien avec le trafic de stupéfiants. Le sport avec du football et l'Olympique de Marseille qui prend provisoirement la tête de la Ligue 1 après sa victoire à Metz, les Phocéens qui sont imposés ce matin 3-0. Et puis ce dimanche en Calédonie, les VTTistes ont rendez-vous au parc de la Rivière Bleue. L'Alliance Pérignon VTT va conduire les amoureux de tout terrain sur les parcours mis en place par Pro Evens. Bonjour, excellent dimanche et soyez les bienvenus dans ce journal. Un nouvel accident mortel de la circulation. Ça s'est passé hier en début d'après-midi sur la voie de dégagement Est, non loin de l'échangeur de Normandie. 2 véhicules impliqués dans cet accident. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, les 2 voitures se sont percutées frontalement au niveau d'une courbe. Un homme d'une vingtaine d'années a trouvé la mort dans cet accident. Par ailleurs, un autre homme d'une vingtaine d'années également a été très grièvement blessé. Il a été évacué hier au Médipôle de Couthiers. En état d'urgence absolue. La circulation a été bloquée pendant plusieurs heures. Depuis le début de l'année, 28 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Calédonie. Et puis, autre accident, ça s'est passé hier toujours, mais en début de soirée, sur la ligne droite de Tontouta, sur la commune de Païta. 3 véhicules, dont vraisemblablement un VBRG, sont entrés en collision dans des circonstances à préciser. Cet accident a fait 2 blessés, dont un plus sérieusement touché. La circulation a été fortement perturbée. L'actualité politique, l'unité des partisans de la France comme mot d'ordre pour les Républicains calédoniens. Ils réunissaient hier matin leur conseil politique à Païta pour faire le point de la situation politique et envisager les prochaines échéances électorales. L'objectif essentiel, déclare Sonia Baquès, c'est de faire passer un message très clair d'unité des partisans de la France.
On va connaître un moment long de quelques mois dans lequel on va sans doute enchaîner les élections municipales, provinciales, validation de l'accord de Bougival, peut-être des législatives si on a une dissolution d'ici quelques semaines. Et le camp non indépendantiste doit rester uni. Et pour ça, on a désigné des référents communaux qui sont chargés dans chacune des communes de trouver les équilibres qui permettent de maintenir cette unité en sachant que le message est clair. On est prêts, nous, républicains calédoniens, à se mettre en retrait de certaines communes dans lesquelles on pourrait avoir des candidats, mais dans lesquelles on fera le choix de ne pas en avoir pour avoir l'unité la plus large possible du camp non indépendantiste.
Et les républicains calédoniens ont donc présenté leurs référents communaux dans les communes de l'agglomération à Bouraille et à la fois des référents qui ne sont pas forcément candidats, mais des garants de l'unité. Mais le but de ce conseil politique dépasse les élections municipales de mars prochain.
L'objectif de ce matin, ce n'est pas du tout les élections municipales, c'est vraiment de faire un point sur la situation globale de la Nouvelle-Calédonie, sur la manière dont doit avancer l'accord de Bougival, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les risques également pour les élections qui arrivent, qu'elles soient provinciales ou qu'elles soient législatives, s'il venait à y avoir une dissolution, et que tout le monde soit en ordre de marche pour faire le nécessaire partout pour que cette unité soit maintenue. Encore une fois, personne ne peut se permettre, dans la situation dans laquelle est la Nouvelle-Calédonie, avec des gens qui sont partis, avec des divisions fortes de la société calédonienne, d'en ajouter sur le plan politique. Donc je ferai le nécessaire partout pour que cette unité soit maintenue.
Une unité des partisans de la France présentée comme indispensable, d'autant plus que de nombreuses élections sont prévues dans les prochains mois, avec même l'hypothèse qui n'est pas complètement écartée de provinciales avant la fin de l'année.
Si la loi de report n'était pas adoptée, il y aurait des élections plus tôt, sans doute pas le 30 novembre, parce que je pense que matériellement aujourd'hui c'est un peu tard pour les organiser, mais sans doute dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, d'où la nécessité absolue d'unité du camp non indépendantiste. Et quand je parle du camp non indépendantiste, je parle de tout le camp non indépendantiste, y compris des personnalités qui sont aujourd'hui un peu en marge et pour lesquelles on a besoin que, encore une fois, le camp non indépendantiste soit uni.
Sonia Baquès au micro radio Rythme Bleu d'Elisabeth Noir. L'unité à tout prix. À ce titre, les républicains calédoniens regrettent la fuite sur les réseaux sociaux de documents de travail interne qui n'avaient pas vocation à être publiés. Venons-en à la foire du Pacifique. C'est la dernière journée pour ce rendez-vous qui se déroule depuis vendredi de la Moselle à Nouméa, Michael Juneski.
Oui, l'événement qui connaît un franc succès depuis son coup d'envoi. Le public est venu nombreux pour découvrir des stands très variés. Plus de 250 exposants sont de la partie. Des professionnels d'ici et d'ailleurs, fiers d'être présents dans cette grande vitrine auprès de la population calédonienne.
On va avoir tout ce qui est planche à découper, quelques produits avec du bambou, du bois local. Et on fait aussi de la teinture sur textile. Ça attire l'œil, en fait, on va dire. Et un partage de notre travail, aussi interagir aussi avec d'autres personnes et faire découvrir aussi nos produits à certaines personnes qui ne viennent pas sur nos lieux habituels.
J'arrive de Tahiti pour la marque Miki Miki. On est venu avec nos gammes du Heiva au niveau des colliers de coquillages. Tout est fait main, on le fabrique nous-mêmes. C'est la première fois qu'on vient à Nouméa, c'est la première fois que je viens à Nouméa. On a profité de faire un salon, on aime. Ça plaît, je vois que ça plaît, donc on est content pour le moment.
Je suis productrice de vanille et de miel sur Pointe-Bout. Sur Pointe-Bout, il y a beaucoup de choses. On fait également un peu de tourisme en faisant visiter la plantation de vanille. Il y a des prestataires touristiques à côté qui font des balades en canoë sur un grand lac. C'est une belle destination. On essaye de se regrouper pour travailler ensemble pour que les gens puissent avoir des activités sur place. Ça va, ça se passe bien. Il y a eu un peu de monde. J'ai réussi à vendre quelques produits. Donc ça va, c'est que du positif.
Un stand RRB est sur place pour vous faire jouer et pour vous rencontrer. Hier encore, sur le jeu de la roue RRB, on félicitera le jeune Stan qui a remporté un téléphone Samsung offert par Micromédia. Ça continue ce dimanche. La Foire du Pacifique fête cette année ses 15 ans d'existence.
Un vif succès hier pour la première édition du Salon Découverte des Métiers de la Formation en salle d'honneur de la ville de Nouméa. Plus de 2000 visiteurs ont déambulé entre les stands. Cette journée a permis aux collégiens, lycéens et étudiants de s'informer, mais surtout d'échanger directement avec des professionnels et des établissements scolaires et supérieurs. Le bilan avec Romuald de Salier. Il est adjoint à la délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue en charge de la relation école-entreprise.
Bilan plus que positif. Les gens attendaient avant l'ouverture. On était obligé de faire attendre dehors pour pouvoir créer un flux de mobilité dans le salon. Donc, victime de notre succès. On est heureux, on est content et le résultat est présent. On voit différentes tranches d'âge. Donc, ça veut dire que tout le monde est concerné par la problématique de l'orientation de l'enfant ou de leurs enfants. Et puis, tout est tenu. C'est ce qui est positif, c'est que c'est ouvert à tout le monde. C'est la Calédonie qui est présente aujourd'hui.
Et le salon Découverte des métiers et des formations a refermé ses portes hier à 17h à la mairie de Nouméa.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 7h08.
Venons-en à l'actualité religieuse avec le 94e pèlerinage de Tomo. Une nouveauté cette année, le programme se déroule sur une seule journée. Les premiers pèlerins cheminent des ponts de la Tontouta et de la Wengi en direction de la chapelle Sainte-Thérèse de Tomo. Sur place, Kalinda Boicou.
Une confiance qui fait suite à une épidémie de lèpre qui avait sévi au début des années 30 dans les tribus du bord de mer à Païta. Un lieu, une chapelle qui a été bénite le 24 septembre 1931, les bénévoles des paroisses de Païta et de Tomo se mobilisent. Les catholiques de Calédonie renouvellent donc leur confiance à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le père François Grossin nous en dit plus.
On célèbre la fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qu'on appelle couramment Sainte-Thérèse de Lisieux ou la Petite Thérèse par rapport à la Grande Thérèse, celle d'Avila. Et sa fête tombe le 1er octobre qui est l'ouverture du mois du rosaire. Mais ici, en Nouvelle-Calédonie, depuis 1931, donc ça fait déjà pas mal d'années, bientôt ça fera 100 ans, il y a ce pèlerinage qui a été établi à Tomo, qui à l'époque était menacé par une sévère épidémie. C'était la lèpre qui avait déjà fait plusieurs morts dans les tribus qui sont dans la région de Tomo, donc de Païta. Le père Adrien Noblet, il avait décidé de confier la population qui était menacée par cette épidémie, d'organiser un pèlerinage à Tomo en l'honneur de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui venait d'être canonisée quelques années plus tôt, c'était en 1925. Et en plaçant la population de cette région de la Calédonie, dans la commune de Païta, sous la protection de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne des missions, et depuis quelques années, qui a été proclamée aussi docteur de l'Église.
Les premiers pèlerins cheminent des pans de Tontouta et de la Wengi en direction de la chapelle Sainte-Thérèse de Tomo. Les précisions de Roselyne Ginacqua, la secrétaire de l'association pèlerinage de Tomo.
Aujourd'hui, c'est la marche. Donc il y a des pèlerins qui commencent à marcher là depuis le pont de Tontouta. Donc ici, tout est prêt pour accueillir les pèlerins. Je pense qu'ils attendent parce que l'année dernière, on ne l'a pas fait. suite aux émeutes. Donc je pense que c'est un besoin aussi de se retrouver et de pouvoir se recueillir auprès de Sainte Thérèse. C'est un renouvellement, c'est une continuité pour certains. Donc on peut dire que c'est un peu des deux, quoi. Les chrétiens vont à la fois revenir parce qu'ils reconfirment leur foi et puis c'est un besoin de se retrouver ou de renouveler sa foi.
Au programme de la matinée, de 8h à midi, les confessions et à 10h, l'adoration du Saint-Sacrement. Le chapelet médité sera prévu à 14h cet après-midi. La grand-messe sera célébrée à 15h par Mgr Susitino Sionepui. Kelinda Boicou de la chapelle Sainte-Thérèse de Tomo, Radio Rythme Bleu.
Merci Kelinda. Il est 7h11 sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête-à-tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lanzvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Du 3 au 5 octobre, rendez-vous à la Moselle pour la 15e édition de la Foire du Pacifique. Une édition spéciale anniversaire avec le grand retour des pays du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, Wallis et Futuna, Vanuatu. 3 jours de fête non-stop, spectacles, animations, bonnes affaires chez plus de 250 exposants et des cadeaux à gagner. La Foire du Pacifique, un événement incontournable. Info et programme complet sur la page Facebook pacificfair.nc.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Lionel Sabot.
Avec une question ce matin, va-t-on vers la paix à Gaza ? Le Hamas, on en parle depuis hier, serait donc prêt à la libération des otages israéliens conformément au plan de paix proposé il y a quelques jours par Donald Trump. Mais le mouvement terroriste islamiste dit encore vouloir discuter de plusieurs détails. Rien n'est donc fait. Pourtant, en Israël, on veut y croire. En ce moment même, à Tel Aviv, plusieurs milliers de personnes sont réunies sur ce que l'on appelle depuis octobre 2023 la place des otages. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Rassemblement qui se tient ici comme tous les samedis, mais qui forcément ce soir plonge la place des otages dans une ambiance particulière. Car depuis 24 heures et l'annonce du Hamas, l'espoir de revoir les otages se lit sur le visage de beaucoup d'Israéliens. Raghi Tren, par exemple, et la mère d'Itaï Ren, militaire capturée le 7 octobre et toujours otage à Gaza. L'armée l'a déclaré mort il y a un an et demi, mais sa mère veut croire que son fils est toujours en vie.
On a plus d'espoir aujourd'hui. On sent vraiment que quelque chose se passe. Mais en même temps, on est réaliste car cela fait 2 ans qu'on subit un terrorisme psychologique très dur. À chaque fois qu'on y a cru, il s'est passé quelque chose. Mais on doit garder espoir. On n'a pas le choix. On veut revoir Itaï.
De l'espoir, donc, vous l'entendez, pour cette mère et chez beaucoup de familles d'otages présentes ici qui vont prendre la parole devant environ 10 000 personnes qui sont rassemblées, vous l'entendez derrière moi, pour ce grand rassemblement et ce vent d'espoir qui souffle à nouveau à Tel Aviv.
Antoine Bienveau, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Après la réponse du Hamas hier au plan de paix américain, Donald Trump a demandé à Israël de suspendre les bombardements dans la bande de Gaza. L'État hébreu semble avoir obtempéré et les négociations entre le Hamas et Israël devraient même reprendre dans les prochaines heures au Caire, en Égypte. Frédéric Simon pour Europe 1.
Des négociations indirectes entre Israël et le Hamas avec la médiation de l'Égypte, du Qatar, de la Turquie et sous l'égide des États-Unis. Deux des plus proches conseillers de Donald Trump seront présents dans la capitale égyptienne, Steve Witkoff et Jared Kushner. Le président américain plus déterminé que jamais, semble-t-il, à être celui qui aura rendu possible la libération des otages israéliens et la fin de la guerre dans la bande de Gaza, quelques jours à peine avant le deuxième anniversaire des massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023. La détermination du président américain pourrait être suivie d'effet dans les délais les plus brefs, puisqu'en Israël, des responsables haut placés évoquent la possibilité que les otages soient libérés dans les tout prochains jours. Les négociations s'annoncent tout de même ardues. Le Hamas demande la révision de plusieurs clauses du plan de paix américain, les modalités du retrait des troupes israéliennes et la question du désarmement de l'organisation terroriste compte parmi les points les plus délicats. Donald Trump, qui a félicité Israël pour avoir interrompu ses opérations militaires, exige désormais du Hamas qu'il agisse rapidement. Et côté israélien, Benjamin Netanyahu a convoqué les dirigeants de l'aile la plus à droite de sa Fatah coalition. Ces derniers, fortement opposés au plan de paix, pourraient faire tomber le gouvernement et provoquer la tenue d'élections anticipées.
Frédéric Simon, le correspondant permanent d'Europe 1 en Israël. Venons-en à l'actualité en métropole. Le choc à Nice, où une fusillade a fait 2 morts et plusieurs blessés. Ça s'est passé hier dans le quartier sensible des Moulins. Cette nuit, pour nous, moins de 24 heures après cette fusillade, le procureur de la République de Nice a confirmé que ces tirs avaient un lien avec le trafic de stupéfiants. Hier, plusieurs personnes armées de Kalachnikov ont ouvert le feu en direction d'un point de deal. Le bilan est lourd, 2 morts, dont un jeune de 20 ans connu des services de police et un homme de 59 ans. 5 autres personnes ont été blessées. Elles sont actuellement hospitalisées. Il s'agit de passants qui n'ont aucun lien avec le trafic de drogue. Jean-Luc Bracato, délégué Alliance Police dans les Alpes-Maritimes, estime que le bilan de cette fusillade aurait pu être bien plus lourd.
Dans une cité comme ça, quand vous tirez sur une foule avec une Kalachnikov, un seul tir peut faire plusieurs victimes. C'est tellement puissant comme arme. La première personne qui va être touchée va être traversée et il y a d'autres personnes derrière qui vont être touchées. 2 morts, c'est triste, c'est malheureux, mais on aurait pu avoir beaucoup plus de morts hier soir.
Jean-Luc Bracato, délégué Alliance Police dans les Alpes-Maritimes, j'ajoute qu'une 60aine de CRS ont été appelés en renfort dans le quartier des Moulins à Nice. Les auteurs des faits originaires de Marseille sont toujours activement recherchés. 3 semaines après sa nomination au poste de Premier ministre, Sébastien Lecornu n'a toujours pas nommé ses ministres. Chef du gouvernement poursuit et a poursuivi ses consultations. Il a reçu hier une partie des oppositions. Sébastien Lecornu devrait révéler son casting gouvernemental d'ici peut-être à la fin du week-end, lundi éventuellement. En attendant, le Premier ministre est toujours dans le flou. Jacques Serret pour Europe 1.
Sébastien Lecornu avait lui-même fixé cette échéance. Le gouvernement sera nommé avant le début des travaux parlementaires, annonçait le Premier ministre la semaine dernière, pour tenir son engagement. L'hôte de Matignon doit donc former son gouvernement d'ici demain soir, lundi au plus tard, ce qui est loin d'être fait. Les Républicains s'interrogent toujours quant à leur participation ou non à ce nouveau gouvernement. En cause, les potentiels gestes que pourrait accorder Sébastien Lecornu aux socialistes, une taxe sur le patrimoine financier est notamment sur la table. Conséquence, le plus grand flou demeure sur la composition de ce gouvernement, si ce n'est que si LR confirme sa participation, les grands ministères ne devraient pas changer d'incarnation. Bruno Retailleau à l'intérieur, Gérald Darmanin à la justice, Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères sont bien partis pour rester. Seule grande incertitude, le nom du futur ministre de l'économie, Éric Lombard, menacé, pourrait céder sa place à Roland Lescure.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. En bref, en métropole, infirmières, aides-soignants, médecins généralistes, urgentistes, mobilisés cette nuit pour nous dans les rues de Paris pour une marche blanche pour demander plus de moyens pour la santé au gouvernement. La manifestation a rassemblé environ 200 soignants. Ils déplorent une dégradation de leurs conditions de travail et de l'offre de soins proposée aux patients. Et puis la tempête Amy a fait 2 morts en métropole. Un homme s'est noyé à Étretat, en Seine-Maritime. Un autre est mort dans un accident de la route dans l'Aisne après des vents violents liés à cette tempête. Jusqu'à 5000 foyers ont été privés d'électricité hier sur l'ensemble de la région Normandie. Il est 7h et pratiquement 19 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo.
La Ligue calédonienne de badminton vous invite ce week-end à l'Arène du Sud pour son championnat territorial jeune. Les matchs auront lieu de 8h à 19h les samedis et dimanches. Rendez-vous à l'Arène du Sud, l'entrée est gratuite.
Hyper U Païta fête son premier anniversaire et sort le grand jeu pour vous gâter. Du 1er au 11 octobre prochain, participez au grand jeu anniversaire et tentez de repartir avec l'un des 10 pick-up Power King Kong à gagner. Remplissez votre bulletin de jeu et déposez-le dans l'urne prévue à cet effet. Tirage sort le samedi 11 octobre à 16h, remise des clés le dimanche 12 octobre. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement déposé chez Maître Citrita, huissier de justice à Nouméa.
U, commerçant autrement.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec l'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et nous allons commencer avec du football et la suite de la 7e journée du championnat de France de Ligue 1 et l'Olympique de Marseille qui a pris provisoirement la tête du championnat, Mickaël.
Les Marseillais dans une forme olympique. L'OM tient la cadence après sa victoire sur Metz. La lanterne rouge, 3-0. Des réalisations signées Paixão, O'Reilly et Guiri. Dans la foulée de son succès en Ligue des Champions sur l'Ajax d'Amsterdam, l'OM prend donc la place de leader puisque le PSG et Lyon ne joueront que demain. Autre résultat résultat du jour, le match nul entre Brest et Nantes, 0-0. Le rebond tant espéré après le départ d'Antoine Comboiré sur le banc des Canaries n'est pas au rendez-vous. Depuis le début de la saison, le club de Nantes totalise une seule victoire pour 3 matchs nuls et 3 défaites. Les Nantais sont 14e du classement. La dernière rencontre du jour oppose l'AG Auxerre au RC Lens. Les Lensois mènent 1-0 après 55 minutes de jeu.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
La 5e journée du Top 14 et le Stade Français qui passe en tête du classement.
Les Parisiens sont les seuls à s'être imposés à l'extérieur dans le début de cette journée. Succès du Stade Français à Perpignan 28-11. Pour le reste, ce ne sont que des victoires à domicile, notamment Clermont qui a étrié Montauban 84-31. Montpellier a battu La Rochelle 37-13. Castres s'est imposé sur le Racing 92, 20-16. Le RC Toulon est deuxième après sa victoire sur la section paloise 33-17. En ce moment même, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit le Lyon Olympique Universitaire.
L'actualité de l'Ovalie, c'est aussi dans notre hémisphère la 6e et dernière journée du Rugby Championship et les Springboks ont remporté le tournoi.
L'Afrique du Sud qui a réussi à l'emporter de peu sur le terrain des Pumas argentins 29-27. Les doubles champions du monde en titre finissent donc en tête du classement devant les All Blacks. La Nouvelle-Zélande qui a tout de même décroché un succès en Australie 28-14. Les Wallabies finissent 3e, les Argentins derniers de la compétition.
Un petit mot de cyclisme avec les championnats d'Europe sur route. Chez les féminines, la néerlandaise Demi Vollering s'est adjugée le titre. La meilleure française Juliette Labousse a terminé à la 6e place. La course chez les messieurs se disputera ce soir dès 20h45 heure de Nouméa. On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1 avec George Russell qui signe la pole position au Grand Prix de Singapour, Michael.
Le pilote Mercedes qui a su tirer son épingle du jeu pour réaliser le meilleur temps des qualifications devant la Red Bull de Max Verstappen. La McLaren d'Oscar Piastri se classe 3e, tandis que l'autre Mercedes d'Andrea Kimi Antonelli s'élancera de la 4e place. La 2e McLaren de Lando Norris et la Ferrari de Lewis Hamilton complètent le top 6. Charles Leclerc au volant de l'autre monoplace de la Scuderia partira seulement de la 7e place. Il est déçu de cette séance de qualification.
Ça fait deux week-ends que j'ai pas du tout le feeling avec la voiture. Il va falloir qu'on travaille, qu'on comprenne ce qui va pas, parce que là, je suis pas au niveau que je devrais être et on perd des points. Donc voilà. Après, je sais pas si aujourd'hui on avait beaucoup mieux à faire. Je pense pas qu'il y avait beaucoup mieux à aller chercher non plus.
À côté français, Isaac Hadjar peut lui se satisfaire d'une très belle 8e place. Esteban Ocon partira de son côté de la 19e position et Pierre Gasly de la dernière place sur la grille de départ. La course sur le tracé de Singapour sera à suivre dès 23h ce soir pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
En MotoGP, l'Italien Mario Bezzecchi a remporté la course sprint au Grand Prix d'Indonésie.
Après avoir signé la pole position, il s'est imposé sur la sprint devant les Espagnols Fermín Aldeguer et Raúl Fernández. Les pilotes tricolores, Joan Zarco et Fabio Quartararo, ont tous les deux dû abandonner. Quartararo qui s'était placé à la 8e position sur la grille de départ, tandis que Joan Zarco partira lui de la 18e place. La course, c'est ce soir dès 18h pour nous.
Allez Michael, en Calédonie, on parle encore de sport mécanique avec le club de fin pour le championnat territorial des rallyes.
Tomo Valley, théâtre du dernier round de la saison, avec une journée particulièrement spectaculaire qui s'est achevée en nocturne pour le plus grand plaisir du public, qui a donc assisté à une belle épreuve sur la commune de Boulou-Paris. La réaction de Max Fouché, le propriétaire de Tomo Valley.
Moi, je peux être que satisfait, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je pense que je suis comblé de mon projet et puis de cette réalisation. Je pense que la Calédonie et les Calédoniens, les jeunes, peuvent se réjouir d'avoir un endroit où ils peuvent s'amuser. En nocturne, c'est merveilleux. On a des tours d'éclairage, ils sont équipés de phares, sans risque, puisque c'est spécial sur un circuit à plat. Et le public est comblé parce qu'il voit l'intégralité du circuit. On a un avantage, c'est qu'on finit les spéciales le nocturne avec le même nombre de voitures. Malgré que dans la journée, il y a eu des cas, il y a eu de la réparation, il y a eu des cas de la réparation. Mais ils sont tous revenus dans le circuit parce qu'ils voulaient à tout prix finir la nocturne. Ça, c'est la nocturne qui leur plaît le plus. Le rallye, je pense qu'il a de beaux jours devant lui puisque maintenant, il y a des infrastructures, il y a ce qu'il faut pour que les jeunes s'intègrent et puis en jouissent au maximum.
Et côté résultat au classement final, des 11 spéciales de ce samedi, la victoire sur ce rallye de Tomo-Valley est revenue à l'équipage Kevin Bertoni, Cyril Letézer sur Mitsubishi Evolution 8 devant la Ford Fiesta R5 de Jérôme Martinatti et Jean-Luc Togib. L'équipage Nicolas Leandro, Jean-Michel Maillet sur Mitsubishi Evolution 9 se classe 3e alors que le duo Hendrik Maui, Frank Kachawan qui était en tête du classement du championnat avant cette ultime étape se classe à la 4e place.
Ce dimanche, le parc provincial de la Rivière Bleu et le royaume des vététistes avec l'Alliance Pérignon VTT.
Un rendez-vous mis en place par Pro Events dans le Grand Sud pour ravir les fans de sensations fortes. Déjà hier, le trail Alliance Pérignon a remporté un franc succès. Damien Boutelier est le co-gérant de Pro Events et directeur de course de l'Alliance Pérignon VTT 2025.
Trois parcours et les parcours kits, donc on est sur le pont. C'est une petite édition pour la Pérignon Alliance VTT cette année, mais par contre une belle réussite sur le trail avec 500 participants pour une première édition. On est vraiment très heureux.
Et pour la partie trail, la victoire hier est revenue à Julien Bernès sur le parcours de 15 km, 1h10 minutes 33 secondes d'effort. Il a devancé Vincent Falatic et Simon Robin. Lara Ozu qui a terminé première féminine. Un marché des producteurs de yaté est également installé sur le site de la compétition. Un double événement en partenariat avec RRB.
En badminton, la jeunesse est à l'honneur du côté de Païta.
La Reine du Sud qui voit se dérouler les championnats de Calédonie jeunes tout au long du week-end. Ça représente près de 90 joueurs qui engrangent une belle expérience de la compétition et qui profitent pleinement de leur passion.
Ça s'est bien passé, il y a une bonne ambiance et tout le monde est content.
Surtout que j'y étais jamais allée et c'est vraiment sympa cet endroit.
J'aime surtout faire des beaux smashs, des beaux points et surtout jouer au badminton.
C'est bien, des fois on peut gagner comme on peut perdre, mais c'est bien.
Je trouve que c'est vraiment cool, c'est la première fois que, en tout cas moi je joue dans cette salle et puis c'est une très très grande salle et puis c'est vraiment bien. C'est une très bonne occasion d'emmener plein de gens à jouer ici.
Les matchs continuent ce dimanche encore avec les tournois en double pour les jeunes catégories d'âge. Côté simple, on signalera les succès de Nathan Kachawan en benjamin, de Maë Sargito en cadet, de Jeune Le Breton en junior, de Liam Sargito en minime, de Jules Milési en poussin, d'Emine Guyenne en benjamin, d'Auguste Capitaine en cadette, d'Olympe d'Archeville en minime fille et d'Aileen Roland-Higa en poussin fille.
Et vous avez encore quelques résultats en bref, Mickaël.
En cyclisme, les championnats de contre-la-montre à Bourail sur le domaine de Deva ont vu la victoire de Florian Barquette devant Jonathan Berger. Christophe Laurent, Patricia Temro termine meilleure féminine, Nino Durand et Ethan Dacremont l'emportent dans les catégories jeunes. Il y aura du motocross ce dimanche avec la dernière manche du championnat de course sur prairie, ça se passera sur la commune de Bourail, Athénée. Enfin hors du territoire, en football, la finale du tournoi UFC féminin des moins de 19 ans se disputera ce dimanche. Les Calédoniennes défieront à nouveau la Nouvelle-Zélande sur les terrains de Polynésie française.
Et nous allons terminer ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors Thierry, de ce que je vois de dehors, c'est plutôt pas mal, sur Nouméa en tout cas. Est-ce que ça va durer ?
Normalement oui, mais tout d'abord, on va parler de cette vigilance jaune. Ça concerne une houle, une forte houle, donc orientée sud-sud-ouest, entre 3 et 3,50 m. Ça sera cet après-midi sur l'île des Pins et le sud-ouest, et ainsi que jusqu'à Conné pour cette nuit. Ce matin, malgré quelques nuages sur le sud-ouest et les loyautés, le soleil sera bien présent. Quelques averses circuleront encore aux abords de l'Ifou et Ouvert. Un vent de secteur sud dominera et soufflera autour des 10 à 15 nœuds localement sur les pointes nord et sud de la Grande Terre, 15 à 20 nœuds. Il sera plus faible sur l'est, entre 5 et 10 nœuds. Cet après-midi, sur le sud-ouest, le soleil restera contrarié par quelques nuages bas et des ondées ne seront pas exclues près du relief. À l'heure, malgré des débordements sur l'est, des nuages retardataires aux loyautés, le soleil dans l'ensemble sera bien présent. Bonne nouvelle donc. Sur l'est, le vent lui sera faible, excepté dans l'axe de certaines vallées où il atteindra 10 à 15 nœuds. Sur le reste du territoire, c'est un vent de sud-sud-est qui dominera. Les températures, elles comprises en général entre 25 et 28 degrés, Lionel.
Merci beaucoup, Thierry. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Il sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Belle matinée, bon dimanche sur Radio Rythme Bleu. On se retrouve